signatures et autres festivités pour mettre la littérature et la musique à l'honneur. Mot pour mot, les 21 et 22 juin à la Villette, un événement Le Monde, Le Nouvel Obs et Télérama avec France Inter.
France Inter, il est 8h. Le journal, Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour Marion, bonjour à tous. À la une ce matin, la Légion d'honneur perdue de Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République se voit retirer sa décoration. C'est automatique en cas de condamnation définitive par la justice. Explication dès le début de ce journal. Dans l'actualité aussi, les frappes continuent entre Israël et l'Iran. On s'intéresse au rôle des services secrets israéliens dans l'attaque massive lancée il y a 2 jours. Une parade militaire sans liesse populaire à Washington. Et puis une mission scientifique à la recherche des déchets radioactifs enfouis sous l'océan. Enfin, on reparle du PSG, mais oui, en Coupe du Monde des clubs. Ce sera dans le journal des sports de Marion Ferrer, avant votre invité à 8h20.
Il nous prouve dans son dernier livre que nos maisons sont bien plus que des murs, elles sont des refuges et notre reflet. Le documentariste et essayiste Jean-Louis André, dans le grand entretien, il signe chez Odile Jacob, notre chez-soi, la maison des Français depuis les 30 Glorieuses. Racontez-nous, chers auditeurs, votre chez-vous et posez vos questions aussi à Jean-Louis André au 01 45 24 7000 et sur l'application Radio France.
France Inter. Il se serait sans doute passé de ce rapprochement peu glorieux. Nicolas Sarkozy devient le deuxième chef d'État français à perdre sa Légion d'honneur après le maréchal Pétain. C'était en 1945. Décision publiée la nuit dernière au journal officiel. Emmanuel Macron avait dit sa réticence à déchoir l'ancien président. C'était il y a 2 mois.
Le président de la République que je suis en tant que grand maître ne prendra aucune décision de ce type. Compte tenu du fait qu'il a été élu président par le peuple souverain, je pense qu'il mérite le respect, et il a mon respect, je crois qu'il a le respect du peuple français. Si la marge de manœuvre m'est donnée, je préférerais qu'un ancien président puisse rester là où il est, dans l'ordre qui est le sien. Parce que c'est quelque chose d'avoir été président de la France.
Mais cette décision ne dépend pas du président de la République. En cas de condamnation définitive, le retrait de la décoration est automatique. Bonjour Nolwenn Lejeune.
Bonjour.
Du service PJ Police Justice de France Inter. Et c'est le cas de Nicolas Sarkozy, condamné dans l'affaire des écoutes.
Oui, l'affaire dite Paul Bismuth, l'ancien président de la République, a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence, condamnation devenue définitive après le rejet de son pourvoi en cassation le 18 décembre dernier. Une peine qu'il a purgée en partie sous bracelet électronique. Mi-mai, il a été admis au régime de la libération conditionnelle et son bracelet lui a été retiré, mais il continue de purger sa condamnation et doit notamment solliciter l'autorisation du juge pour tout déplacement à l'étranger. Son avocat a par ailleurs formé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme contre cette condamnation, mais ce recours n'est pas suspensif. Sa condamnation définitive d'un an de prison ferme entraîne donc de droit le retrait de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Et Nicolas Sarkozy n'en a pas fini avec la justice. Il y a d'abord l'affaire Big Malion. Il a été condamné en appel à 6 mois de prison ferme pour avoir dépassé le plafond des dépenses électorales. Il s'est pourvu en cassation. La décision est attendue dans le cours de l'année. Il y a aussi les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Le procès a eu lieu en début d'année. Le jugement sera rendu fin septembre. Et dans cette même affaire, il y a encore sa mise en examen pour subornation de témoins après la rétractation de l'intermédiaire libanais Ziad Takieddine.
Merci Nolwenn Lejeune.
Les échanges de tirs de missiles continuent entre Israël et l'Iran.
Israël qui a mené une nouvelle série de frappes la nuit dernière contre des cibles à Téhéran liées au projet iranien pour se doter de l'arme nucléaire, précise l'armée. Et l'objectif de cette attaque massive déclenchée vendredi, c'est en effet de stopper le programme nucléaire iranien, y compris en éliminant les chefs de l'armée, des experts et des ingénieurs. Et cela en s'appuyant sur les services secrets israéliens. À Jérusalem, Michel Paul de RFI pour France Inter.
Pour la plupart, ils ont été tués dans les premières heures de l'offensive israélienne en Iran. Pour certains, par des frappes aériennes très ciblées. D'autres ont trouvé la mort dans des circonstances non clarifiées. Le Mossad, le service secret israélien, a reconnu fait extrêmement rare avoir des agents au sol en Iran. Le nom le plus connu est celui de Hossein Salami, le chef des gardiens de la révolution, mais il y a aussi le chef d'état-major des armées, Mohamed Bagheri, éliminé par une frappe aérienne. En tout, une vingtaine de hauts responsables des forces armées iraniennes, dont le commandant de l'armée de l'air et le chef des renseignements militaires. Israël revendique également l'assassinat ciblé de 9 experts du programme nucléaire iranien. Pour l'armée israélienne, leur élimination représente un coup dur pour la capacité du régime iranien à acquérir des armes de destruction massive.
Et l'Iran aussi a lancé une nouvelle salve de missiles sur le nord d'Israël et le sud de Tel Aviv. Au moins 10 personnes sont mortes. À rebours de ce qui se passe sur le terrain, le président des États-Unis, Donald Trump, estime qu'un accord entre Israël et l'Iran peut facilement être conclu. Et aux États-Unis, la police est toujours aux trousses de l'homme soupçonné d'avoir tué une élue démocrate du Minnesota ainsi que son mari. Melissa Ortman a été attaquée chez elle dans un acte délibéré de violence politique, dit Tim Walz, le gouverneur de cet état du nord du pays. Visé par le même homme, un autre élu local et sa femme sont gravement blessés. Et Donald Trump, qui a enfin eu le défilé militaire qu'il espérait depuis 2017, depuis qu'Emmanuel Macron l'avait invité à celui du 14 juillet sur les Champs-Élysées, c'était hier devant la Maison-Blanche à Washington. Rapidement, Donald Trump a dénoncé cette célèbre parade, célèbre les 250 ans de l'armée américaine, le jour même de son 79e anniversaire. Dans la foule pas très dense, beaucoup de retraités de l'armée et leurs familles, des opposants au président républicain, la capitale américaine est en effet démocrate à 95%. Le reportage de Sébastien Paour.
Des centaines de soldats marchent au pas, alignés comme les chars et les blindés. Il y a là des uniformes et des engins de tous les conflits depuis la Deuxième Guerre mondiale. Jack, retraité de l'armée, n'est pas convaincu. L'armée ne fête pas ses anniversaires comme ça, avec un défilé. Elle organise des cérémonies, mais pas de défilé. Notre armée n'a pas à se mettre en valeur et à faire bonne figure. Elle est au service de notre pays, pas d'une seule personne. Ce sont les fascistes qui organisent des défilés pour eux-mêmes. À côté, dans l'herbe, Patricia tient une photo de son fils en tenue camouflage, tué il y a 6 ans dans un accident de voiture. Elle regrette la date choisie par Trump. Il ne le fait pas pour l'armée. Il le fait seulement pour son anniversaire. Scott se présente comme électeur indépendant et lui aussi déplore un tel déploiement de moyens. Je ne serais pas aussi contrarié si on avait fait ça le 4 juillet, le jour de notre fête nationale, pour célébrer notre indépendance et le fait qu'on respecte notre Constitution. Je pourrais l'accepter, comme vous, le 14 juillet. Mais là, ça n'a aucun sens. C'est juste un truc égoïste et arrogant. Une journée à 45 millions de dollars, d'après l'armée américaine. Beaucoup ne sont pas restés jusqu'au feu d'artifice. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Le Groenland menacé par les visions expansionnistes du président des États-Unis qui veut l'annexer reçoit aujourd'hui la visite officielle d'Emmanuel Macron. Le président de la République veut marquer sa solidarité avec le Danemark. Le Groenland est un territoire autonome danois riche en matières premières et c'est le premier dirigeant étranger à se rendre dans l'île depuis les menaces de Donald Trump. En France, les socialistes vont-ils quitter le congrès de Nancy unis ou divisé? Olivier Faure, élu de justesse au poste de secrétaire général. Le parti reste coupé en deux. En ce dernier jour, les cadres vont tenter de se rassembler autour d'un projet commun. Principal point de blocage, les alliances électorales avec la France insoumise. L'incendie sur le site Céveso de Rognac dans les Bouches-du-Rhône est circonscrit. Le feu a pris hier soir dans les entrepôts de l'entreprise Spur, spécialisée dans le traitement de déchets. Un pompier et un gendarme ont été blessés. La préfecture informe qu'aucune toxicité n'a été retrouvée dans l'atmosphère. Et ces déchets-là reposent dans les abysses. 200 000 fûts de déchets radioactifs ont été envoyés au fond de l'océan Atlantique entre 1950 et 1990 par plusieurs pays européens. Ils reposent dans les eaux internationales à 600 km au large des Sables d'Olonne. Eh bien, une mission scientifique quitte Brest aujourd'hui à la recherche de ces barils. Objectif, mesurer l'effet de leur radioactivité sur les organismes marins. Sophie Becherel.
À bord de l'Atalante, le plus grand navire de la flotte océanographique française, ils seront une vingtaine. Des géologues, des spécialistes de la radioactivité ou encore de la faune marine. Ils ont un mois pour tenter de cartographier l'emplacement des 200 000 fûts. La zone fait la taille de la Corse et on ne sait pas dans quel état sont ces barils radioactifs. C'est le robot sous-marin Ulix qui sera à leurs yeux à 4000 mètres de profondeur, précise Patrick Chardon, spécialiste des effets de la radioactivité sur l'environnement au CNRS et co-responsable de la mission.
Ulix est bardé d'un ensemble de capteurs, ceux qui vont nous recueillir toutes les informations sur l'eau, mais surtout il est capable de prendre des photos qui vont nous permettre de savoir si les fûts sont éventrés, corrodés, enfin globalement dans quel état ils sont.
La radioactivité sera mesurée en particulier sur la faune, les poissons, les crevettes, mais aussi les micro-organismes présents, spécialité de Clarisse Mallet, professeure à l'université de Clermont-Ferrand.
Concrètement, ça veut dire essayer de repérer des bactéries ou d'autres micro-organismes qui seraient plus présents à proximité des fûts et d'essayer de voir s'ils correspondent à ceux que l'on a mis en évidence sur d'autres sites qui sont contaminés ou fortement contaminés par la radioactivité, par exemple à Tchernobyl ou Fukushima. On a des populations sensibles, des populations résistantes.
Question passionnante quand on sait que certaines bactéries ont la propriété de booster le transfert de radioactivité, soit vers un organisme vivant, soit vers les sédiments marins. Il est donc prévu de remonter des échantillons pour les analyser en surface.
Et retour de l'Atalante prévu le 11 juillet.
Le Grand Palais rouvre ses portes au grand public.
Après les images incroyables des Jeux Olympiques de Paris, on se souvient des épreuves d'escrime. Sous la Grande Verrière, l'espace rénové de 70 000 km² va ouvrir cet été, une partie des galeries sont déjà accessibles. Elle accueille une exposition immersive baptisée Euphoria, signée des Italiens du Balloon Museum. Leur spécialité, comme leur nom l'indique, l'art gonflable. Julien Badacchino.
Des œuvres que l'on peut toucher, une piscine à boules géante ou une maison remplie de ballons à traverser. Cette recette, c'est un art immersif, mais surtout décomplexé. L'une des commissaires, Antonella Di Lullo, assume de viser tous les publics.
Notre idée, c'est de créer un musée ouvert, autant aux enfants qu'aux personnes âgées, mais qui n'oublie pas les gens qui sont curieux et qui veulent en savoir plus sur les œuvres et les artistes que l'on montre.
Décomplexé aussi pour les artistes. Ici, une installation de l'artiste Philippe Parreno composée de poissons gonflables est un vrai terrain de jeu pour les enfants. Il y a quelques semaines, dans un autre musée parisien, cette même installation était juste sagement observée. Roberto Fantozzi est le créateur du Balloon Museum.
Un autre de nos artistes, Alex Scheder, exposait au MoMA son grand lit gonflable et il était très ennuyé que les enfants l'utilisent comme un trampoline. Et maintenant, c'est le premier à en rire. Oui, les enfants sautent toujours dessus, mais tout va bien.
Pourtant, avec des billets jusqu'à 27 euros, venir en famille peut coûter cher, mais pendant les vacances d'été, c'est ce public qui est le plus attendu dans les allées de l'exposition.
Euphoria, Art is in the air. C'est au Grand Palais, dont l'espace total est bien de 70 000 mètres carrés.
Oui.
C'est ouvert jusqu'au 7 septembre.
8h12 sur France Inter, le journal des sports.
Avec Marion Ferrer ce matin, bonjour.
Bonjour à tous.
Après avoir conquis l'Europe, le PSG s'attaque au monde, rien que ça.
Le Paris Saint-Germain débute ce soir le Mondial des clubs, la nouvelle compétition de la FIFA organisée cette année aux États-Unis. Pour son premier match, le PSG affronte l'Atlético de Madrid à 21h à Pasadena en Californie, au nord de Los Angeles. L'occasion pour les Parisiens de démarrer leur conquête d'un cinquième titre cette saison, mais aussi Nicolas Perronnet, de mesurer leur nouveau statut.
Depuis leur arrivée mardi sur la côte ouest, les Parisiens vivent à leur manière leur rêve américain. Beaucoup de temps libre, des moments en famille, de nombreux proches ont fait le déplacement. La décompression idéale après la folie de la victoire en Ligue des Champions. Les entraînements toute la semaine ont eu lieu sur le campus de l'Université de Californie. En fin de matinée, pour se caler sur l'horaire de ce premier match face à l'Atlético Madrid, à coup d'envoi midi, heure locale, afin de permettre au public européen de suivre en soirée le premier choc de la compétition. C'est donc sous 32 degrés annoncé que le PSG va étreiner son nouveau statut de champion d'Europe. Sans Ousmane Dembélé, blessé à la cuisse, en Ligue des Nations avec les Bleus, le candidat au Ballon d'Or est du voyage aux États-Unis, mais devra patienter au moins deux matchs avant d'espérer à nouveau marquer les esprits et aider le club parisien dans sa quête d'un nouveau titre, un cinquième trophée espéré dans un mois pour conclure une saison déjà historique.
Et dans le groupe du PSG également, Seattle et le club brésilien de Botafogo, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale.
Et trois médailles médailles déjà pour les escrimeurs français au championnat d'Europe.
Deux titres ont été remportés hier par la fleurettiste Eva Lacheret et le sabreur Rémi Garrigue, respectivement 25 et 20 ans seulement. Une première pour tous les deux. Jean-Philippe Patrice complète le podium du sabre avec le bronze. Aujourd'hui, place au sabre dames. Cette fois, entrée en piste de la vice-championne olympique Sarah Balzer. La numéro 1 mondiale aborde ses championnats avec sérénité après un début de saison post-olympique un peu compliqué.
J'y vais là-bas pour gagner, clairement, en individuel et par équipe. Il y a eu une pause au début post-JO qui était importante et qui était nécessaire. J'ai un peu modifié l'entourage ou la manière de m'entraîner, etc. Donc il y a eu des changements qui ont été faits. Donc ça a pris, voilà, ça prend du temps, comme toute chose. Donc c'est pour ça que j'étais pas présente au début. Il y a du positif qui est vraiment partout et aujourd'hui, j'arrive vraiment à le voir. C'est pour ça que je suis vraiment contente avec tout ce qui est mis en place. Parce que je me sens vraiment dans la bonne direction, que je construis quelque chose de solide, donc c'est cool.
Et début de la compétition aussi de l'épée homme avec Luigi Middleton, le français tenant du titre. Et puis en rugby, la joie des supporters toulonnais hier soir. Toulon qui file en demi-finale du top 14, très large en victoire hier 52 à 23 contre Castres. En demi, les Rouges et Noirs vont affronter les champions d'Europe en titre, l'UBB, ça sera samedi prochain à Lyon. L'autre affiche des demi se disputera la veille, Toulouse contre Bayonne. Ballon ovale toujours, c'est Perpignan qui a remporté hier le match de barrage. Les Catalans restent en top 14 la saison prochaine. Victoire serrée, 13 à 11 contre Grenoble.
Merci Marion Ferrer pour ce journal des sports.
Merci à toutes les deux, c'était le journal de Corinne Audouin. Il est 8h16 sur France Inter.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Magali Rochereau, vous nous annoncez un temps contrasté sur le pays.
Et oui Marion, entre le ciel calme et sec de la moitié ouest et les orages qui persistent, ce matin ils grondent toujours près des frontières du nord et entre le Poitou et le centre et se décalent progressivement vers l'est. Au thermomètre, vous vous réveillez entre 11 à 15 degrés sur le quart nord-ouest. Dans la capitale, il fait 18 et jusqu'à 22 près de la Méditerranée.
Et cet après-midi, la chaleur campe dans le quart sud-est.
Oui, Météo France prévoit encore 32 à 35 degrés de Béziers à Valence et à Nice et localement jusqu'à 38 degrés dans le Var. Ça sera moins chaud sur le reste du pays avec 21 à 24 degrés en général, voire moins sur les côtes de la Manche et encore 25 à 28 en Alsace et en Rhône-Alpes. Les orages, quant à eux, éclatent de l'est du Languedoc à la vallée du Rhône, mais tout orage à son temps, toute haine s'éteint, Marion. Il s'évacue progressivement par les Alpes du Nord, tandis que le littoral méditerranéen se maintient à l'écart avec une tramontane jusqu'à 60 km par heure. À l'arrière de la perturbation, pour fêter les papas, de belles éclaircies illuminent une large moitié nord-ouest du pays.
Ça va sûrement leur faire plaisir. Magali Rochereau, à suivre un grand entretien consacré à notre chez-nous avec l'essayiste Jean-Louis André.
Le dimanche sur France Inter,
le masque et la plume.
Rebecca Manzoni.
L'actualité du cinéma est au programme du masque avec le polar de Thomas N. Gijol, la comédie de Fabienne Godet ou encore le thriller de Kiyoshi Kurosawa.
Le masque et la plume.
Le dimanche sur France Inter à 10h et à 20h.
Ah ouais, enfin une place.
Ah ça, à mon avis, c'est un peu petit pour toi, ça. Tu sais, là, j'ai vu le créneau, c'est tout un art. Alors peut-être que moi, à la rigueur...
Papa, parce
que
oui, je suis garé.
Tu es garé.
Eh ouais.
T'es bien le fils de ton père, toi.
Découvrez toute l'agilité de la Toyota Aygo Cross. Disponible à partir de 119€ par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end.
Ah, c'est bien beau de se garer, mais se dégarer...
Toyota Aygo Cross Dynamic LLD, 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 3 990€, réservé aux particuliers dans le réseau participant pour toute commande jusqu'au 30 juin. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
France Inter, partenaire des Francopholies de La Rochelle. Plus de 80 concerts et rencontres musicales du 9 au 14 juillet 2025 avec Clara Luciani, R, Lamomali, SDM, IAM, Philippe Catherine, Solal, Cassius, Dali et bien d'autres. Les Francopholies de La Rochelle, un événement France Télévisions et France Inter.
France Inter, 8h18.
France Inter, Marion Lourd. Le 6-9.
Un grand entretien en intérieur aujourd'hui. On s'invite chez vous dans la maison des Français depuis les 30 Glorieuses. C'est le sous-titre du livre tout juste publié par notre invité Jean-Louis André, réalisateur de documentaires et essayiste. Bonjour.
Bonjour.
L'ouvrage s'appelle « Notre chez-soi ». Il est publié chez Odile Jacob et il montre, s'il le fallait, que notre maison, ce ne sont pas seulement des murs. C'est vous qui le dites, c'est un toit, c'est notre intérieur. Questions, témoignages, chers auditeurs, faites-nous rentrer chez vous, 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Alors Jean-Louis André, votre livre, il présente en fait l'évolution de nos logements depuis l'après-guerre, avec des exemples très personnels, votre chambre d'étudiant à Paris, l'appartement de vos parents à Marseille. C'est important parce que notre chez nous, c'est pas seulement un lieu, c'est une part de nous, il nous ressemble.
C'est la projection de notre intériorité, de tout ce que nous sommes. Alors parfois, une projection un peu trompeuse, parce qu'on ne réussit pas vraiment toujours à avoir l'appartement qu'on voudrait, ou la maison, la belle maison qu'on voudrait, mais n'empêche qu'on l'investit, qu'on la modifie et qu'on en fait quelque chose qui finalement est assez à notre image.
Quoi. Vous dites on y place nos espoirs et nos économies, vous dites même que depuis quelques décennies, on survalorise le logement, notre maison, c'est tout nous. Est-ce que justement c'est une question de prix? Est-ce que c'est parce qu'il compte tellement dans notre budget qu'il est aussi important?
Je pense qu'on est dans une espèce de double bind, quoi, d'injonction contradictoire. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une survalorisation de notre logement, qui est à la fois un peu le showroom, notre showroom personnel, quoi, si
on montre
peut dire.
Voilà,
où on montre ce qu'on peut faire ou ce qu'on est. Et en même temps, il y a énormément de clichés, de choses qui sont standardisées, qui traversent tout ça. Et que, en plus, des derniers points, il y a une une sorte d'inflation sur les prix qui fait qu'on a de moins en moins accès au logement qu'on voudrait. Donc tout ça est assez contradictoire et est assez, parfois, crée des tensions chez les gens.
Parce qu'il y a eu des moments de rupture aussi qui peut-être ont fait que notre logement était important, par exemple l'urbanisation, par exemple aussi plus récemment la Covid.
Oui. La Covid a permis, enfin, a montré que notre intérieur était fondamental, que si on n'avait pas, alors notre intérieur et notre extérieur. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est aperçu que quand on est chez soi, si on peut sortir, on va mieux. Et ça a changé complètement, par exemple, le rapport qu'on a au jardin. Le jardin est devenu non plus le potager. Ça, c'était les années 50, on y faisait le potager. Aujourd'hui, c'est devenu une prolongation de notre salon. Alors, on le protège, on lui met une clôture, etc. On ne veut plus qu'on le voit. Il y a une intimité de l'extérieur qui s'est créé depuis 4-5 ans, et on le voit là, aux palissades, aux clôtures qui s'opacifient, aux palissades qui montent dans les quartiers pavillonnaires.
Vous datez la crise du logement, même d'avant les 30 Glorieuses, d'avant la guerre des années 20. Pourquoi est-ce qu'on a toujours l'impression, et c'est encore le cas aujourd'hui, qu'on manque de logement? On est toujours en pénurie de logement.
Oui, c'est vrai, et parce que au fond, les habitudes et les exigences changent. Lorsque, dans les années 50, on accepte de vivre à 5, 6 dans un logement relativement petit, on accepte, les enfants acceptent de partager leur chambre, acceptent de partager d'avoir une seule télévision, etc. Aujourd'hui, tout s'éclate et dans chaque et donc on veut des logements de plus en plus grands, etc. Puis il y a plein de choses qui se passent aussi dans la société, la multiplication des couples monoparentaux qui font que là où vous aviez un logement et trois personnes avec un enfant, vous avez deux logements et voilà. Donc on a ça, on a aussi la crise économique, la position des banquiers qui prêtent pas toujours ce qu'il faudrait pour qu'on puisse investir.
Avec des taux parfois élevés
encore. Avec des taux parfois élevés, etc. Donc il manque toujours de logements.
On n'a pas vraiment de mots, nous, pour désigner notre chez-nous. Les Anglais, ils ont house, la maison, et ils ont home, justement le chez-nous, le foyer. Est-ce que c'est une erreur, finalement, de ne pas distinguer les deux?
C'est une erreur, enfin, on n'est pas rien, c'est la langue, mais oui, c'est une... Oui, bien sûr qu'il y a deux mots en anglais qui sont le house, qui est la maison concrète, et puis le home, qui est notre foyer, l'endroit où on se retrouve. Mais le mot maison en français, lui-même, il est déjà porteur d'une certaine ambiguïté. La maison, c'est aussi la famille, la maison Bourbon, la maison des... Voilà. Et puis, la maison de la radio.
C'est vrai, notre maison. La maison de tous les auditeurs et la maison de tous les Français, d'ailleurs, qui contribuent à la financer aussi. Votre livre, Jean-Louis André, il est chronologique. Alors, dans un premier temps, après la guerre, pour les Français, pour les citoyens, il s'agit de retrouver un chez-soi, et puis ensuite il va falloir, dans un deuxième temps, loger massivement les gens. Après, il y a une sorte de ce que vous appelez un retour sur terre, et puis tout ce qui se passe depuis les années 2000, est-ce que vous disiez le retour en intérieur, la place de l'individu, et on voit émerger petit à petit aussi le rêve du pavillon en banlieue, qui a l'air d'être encore un idéal aujourd'hui.
90%, je crois, des Français qui rêvent des qui rêvent
d'un pavillon. Il y a un sondage Kantar il y a quelques années.
C'est ça, il y a des sondages qui sont édifiants. Mais en réalité, ce rêve, il est déjà présent dans les années 50. Hein. Alors, on n'a pas les moyens parce qu'il faut industrialiser la construction et donc on construit des grandes barres en masse. Mais déjà, il commence à y avoir des gens qui rêvent de pavillons, etc. Et puis, la grande époque, effectivement, c'est les années 80, début des années 80, où là, la France va se pavillonniser et où on voit des grandes fortunes hein, se constituer autour des grandes entreprises et où on voit même, ça c'est assez intéressant, on voit même la campagne rêver de pavillons. C'est-à-dire que vous avez ces paysages très étonnants, mais qu'on a tous vu, hein, dans lesquels on a la ferme familiale, belle, en pierre de taille, etc. Et plus personne ne l'habite. Et tout autour, vous avez les enfants qui ont construit leur pavillon. C'est-à-dire que c'est vraiment en train de devenir un idéal qui touche, bien sûr, le monde, enfin la ville. Mes parents, à ce moment-là, déménagent, vont habiter dans la banlieue de Marseille, qui touche la ville, mais aussi la campagne. Et là, c'est encore plus étonnant.
Il y avait eu une grosse polémique en 2021. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, qui avait qualifié ce modèle de pas soutenable. Ça avait vraiment déclenché la colère à l'époque.
Mais oui, ça avait, bien sûr que ça avait déclenché la colère, mais qu'est-ce que vous voulez y faire ? En réalité, elle a pratiquement raison. C'est le bon sens, j'ai un fils qui a...
C'est une question d'environnement, en fait. Ce qu'elle disait, c'est qu'on n'a pas la place de mettre tout le monde comme ça dans une maison individuelle qui va coûter aussi cher à chauffer, etc.
J'ai un fils qui a 7 ans, on se promène dans les quartiers nord de Marseille, il regarde les bars comme ça, il me dit « Ouais, je comprends pourquoi on a fait ça. » Parce que si on mettait tous ces gens à côté les uns des autres, ben on s'en sortirait plus. Mmh. Et c'est vrai que ça prend beaucoup plus de place, que donc ça prend plus de services publics, ça prend plus de routes, ça prend plus de... Voilà, ça oblige, effectivement, écologiquement, c'est difficilement soutenable. Donc, il va falloir trouver des formes qui sont entre le collectif et l'individuel, qui sont des manières de, à la fois, faire tenir les maisons, mais permettre à chacun... C'est le rêve de tous les architectes. Hein, depuis les années 50, il y a des architectes qui inventent des espèces de gros blocs comme ça, dans lesquels on est comme dans une maison individuelle, mais ensemble. Voilà. Donc, ça va continuer.
Justement, les bars dont vous parliez, c'est un peu le point de départ du livre, puisqu'on est dans l'après-guerre, il y a beaucoup de logements qui ont été détruits. Le gouvernement crée un ministère de la reconstruction. Et puis, il y a le matériau star qui arrive, c'est le béton. À l'époque, on en met partout. Hein.
On en met partout et le béton, c'est très ambigu. C'est à la fois la chose que le public déteste. Ah, ils ont bétonné partout, ils ont tout bétonné, oh, c'est horrible. Et la chanson de Dutron, enfin, la fleur de béton à la boutonnière, oui. Enfin, etc. Donc, c'est à la fois quelque chose que le public déteste et c'est quelque chose que les architectes adorent. Parce que c'est la pierre liquide, parce que ça permet de faire des formes nouvelles, parce que ça permet de faire des formes continues aussi. Quand vous empilez des pierres, même sur une colonne romaine, il y a toujours la petite jointure qui fait que on n'a pas réussi à faire quelque chose de lisse. Là, vous faites des portants. Et le grand geste architectural des années 60, c'est évidemment le CNID de la Défense, grand comme la place de la Concorde, dont Malraux dit on n'a rien fait d'aussi beau depuis le temps des cathédrales.
On parle de la grande dalle, effectivement, au niveau de la défense. Mais le béton, quand même, il pose question aujourd'hui. On s'interroge notamment sur son impact environnemental.
C'est très coûteux en termes d'énergie hein, pour fabriquer le cracker. Et c'est donc effectivement un problème environnemental. Après, tous les matériaux finissent par poser des problèmes, hein, même le bois. Hein.
C'est vrai. Cette époque des grands ensembles, justement, on l'entend très bien dans un film que vous aimez bien, je crois. C'est Mélodie en sous-sol, un film d'Henri Verneuil en 1963.
Quoi ? Ils n'ont tout de même pas rasé ma cabane, Ginette m'aurait écrit. Dire que j'avais acheté ça pour les arts et puis pour les jardins. Ils appelaient ça la zone verte. C'est devenu New York, la zone verte.
New York, la zone verte, Jean-Louis André.
C'est Sarcelles, en vrai.
On entend, oui, c'est Sarcelles. C'est pas New York, c'est Sarcelles. Et c'est Jean Gabin qui cherche son chez lui. Il sort de prison et puis il reconnaît plus rien du tout. Ils ont tout de suite été détestés, ces grands ensembles ?
Non, il y a eu... Chez les architectes, par exemple, c'est quelque chose... On croit souvent que les architectes font des bâtiments au rabais. Ils font ça de façon, au contraire, avec une certaine fierté. C'est tous des prix de Rome. Zerfus, par exemple, à Nancy, qui construit ce qui va devenir c'est la légende, hein, la plus grande barre d'Europe, le Haut du Lièvre, qui d'ailleurs on est en train en ce moment de déconstruire, c'est l'architecte de l'UNESCO, c'est l'architecte qui a reconstruit Sfax en Tunisie, c'est l'architecte qui a construit le CNIT, justement. Donc il arrive à Nancy en disant, je vais pas faire de la banlieue des cages à poules. Il dit, je vais faire un chef-d'œuvre, je vais faire aussi beau que la place Stanislas.
Oui, et alors on se souvient aussi de la chanson de Renaud, mon HLM, vous savez, où il décrit, alors il y a tout une diversité de personnages qui habitent dans son HLM qui sont très très différents. C'est plus du tout ça aujourd'hui, les grands
alors
ensembles
c'est plus du tout ça,
et les HLM.
C'est plus du tout ça, mais effectivement, ça l'a été. C'est-à-dire qu'il y a une vraie concurrence dans les années 60 entre les gens qui arrivent et qui sont des vrais mal logés, parce que la France des années 60-70, c'est encore une France des bidonvilles dans laquelle à Nanterre, à Massy, il y a des gens qui sont là et qui regardent pousser ces bâtiments-là avec envie, en se disant si seulement on pouvait sortir de la boue et de la crasse dans laquelle on vit et aller vivre là-dedans. Ça, c'est une partie. Et l'autre partie, c'est la classe moyenne qui est toujours logée à l'époque dans les centres-villes et qui, dans les centres-villes, a des maisons, qui avait des appartements dans lesquels il n'y a pas de toilettes, où les toilettes sont sur le balcon, c'était le cas chez ma grand-mère. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de salle de bain. Pas de salle de bain chez mes deux grands-parents à Marseille, quand même, en plein centre-ville.
Ouais.
Voilà. Et donc, on a tout ça et ces deux publics se font concurrence, mais le HLM de l'époque passe pour une promotion, donc on y trouve aussi bien. Rappelez-vous, dans la chanson de Renaud, effectivement, on y trouve la nana qui part au Club Med et qui bosse dans la pub.
Oui.
Aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver
ce genre. C'est plus vraiment ça. Il y a 10 millions de Français quand même qui sont en logement social aujourd'hui, 3 millions qui attendent encore. Là aussi, on manque, hein, on est en pénurie.
Oui, et alors ce qui est toujours étonnant, c'est, mais bon, après ça pose des questions sur lesquelles il faut réfléchir, qui sont des questions presque philosophiques, c'est qu'en même temps, qu'est-ce qu'on donne aux gens? C'est-à-dire qu'en même temps, on détruit des logements. On est dans une période où on implose plus d'ailleurs, mais où on grignote petit à petit des grandes barres. Le Haut du Lièvre est en train d'être fragmenté, par exemple, en ce moment même.
C'est une sorte de réaménagement maintenant, plutôt que d'explosion. On est passé à une autre sorte de traitement.
Oui, parce que ça choque beaucoup les gens quand même de voir exploser le bâtiment dans lequel on a vécu. Je me souviens, à l'époque j'étais journaliste au Monde, et je me souviens d'une émission, je faisais la critique télé, on m'avait parlé d'une émission, on m'avait dit il va y avoir une émission incroyable dans laquelle ils vont casser les tours des Minguettes, ils vont les faire imploser, ça va être mis en musique par Jean-Michel Jarre. Aujourd'hui on pourrait plus faire ça. On n'oserait plus avoir ce côté triomphal.
Un drôle de spectacle quand même.
Oui, il avait été annulé d'ailleurs là, au dernier moment.
Pascal nous appelle de Grenoble. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Vous avez une question pour Jean-Louis André?
En fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt un témoignage. Moi, j'occupe une maison qui date de 1880, qui a été occupée par de nombreuses personnes avant moi. Et quand je suis arrivée ici, eh bien, j'avais l'impression que c'était elle qui m'occupait plutôt que moi. Et il a fallu un certain nombre d'années pour qu'on se partage la chose. Elle m'occupe toujours et moi je l'occupe un peu. Et puis ce sera le cas, je pense, de ceux qui me succéderont. Et je trouve que c'est quelque chose de merveilleux à ressentir. Enfin, pour moi, en tous les cas, c'est magique.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Pascal. Jean-Louis André, on voit bien là le lien
c'est
affectif.
C'est beau, hein, cet attachement à la maison. Hein. Je crois que les lieux nous habitent autant que nous les habitons, ou plus encore que nous les habitons.
Alors, il y a sur l'application France Inter une question qui est intéressante. Est-ce que la taille de notre maison a une influence sur notre manière de vivre? C'est Max qui demande ça.
Je crois que c'est plutôt l'inverse, non? C'est-à-dire que notre manière de vivre a une influence sur notre maison. C'est-à-dire qu'on va faire le choix, par exemple, de vivre, si on aime bien sortir et qu'on est jeune, on va plutôt faire le choix d'habiter un appartement en centre-ville, même s'il est petit, surtout s'il est à Paris, s'il est tout petit, même s'il est minuscule. Et que si, au contraire, on a besoin d'être en famille, d'avoir des enfants et de les voir jouer, on va plutôt habiter dans la banlieue pour avoir un jardin, non?
Et on revient à notre petit pavillon. Alors si on poursuit un peu la lecture du livre, les grands aménagements dont on parlait tout à l'heure, ils vont laisser place à ce que Télérama va définir en 2010 comme la France moche, les zones grises commerciales entre centre-ville et banlieue. Ça existe encore ça, la France moche?
Ah bah, elle existe, oui, bien sûr qu'elle existe encore. Mais après, moi je suis... Enfin, je discute ce terme-là parce que oui, elle est moche. D'abord, c'est un regard même peut-être de classe qu'on peut dire, qui est un regard qui n'est pas neutre de dire c'est moche. moche, c'est beau, qu'est-ce qui est moche, qu'est-ce qui est beau. Et puis, je trouve qu'il y a surtout, au bout de 20 ans, il commence à y avoir une histoire, même du pavillon. Vous allez dans certains quartiers, dans certaines villes périphériques, certains villages périphériques, et là, vous trouvez à la fois des pavillons des années 80, mais qui ne sont pas les mêmes, des pavillons que ceux qu'on construit aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire du blanc, on ne va pas mettre de volets ou alors des volets roulants. À l'époque, il y a beaucoup de volets pleins. Vous avez des enduits qui sont des enduits rustiques. Les années 80, c'est les années du rustique, par exemple. C'est les années où on va faire des cheminées avec des poutres en bois, où on va mettre du crépi au mur, y compris à l'intérieur.
Et on se fait mal quand on se cogne dans les murs, quand même, parce que
oui,
c'est gratte.
Oui, il y a ça chez moi, chez mes parents.
En fait, il y avait la loi zéro artificialisation, je vais y arriver, nette, qui devait améliorer les choses un peu sur cette France considérée par certains comme moche. Elle devait permettre de remplir ces zones, de les densifier. Et puis, elle a connu un recul récemment à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Je pense qu'en même temps, c'est la ville qui se fait. On est obligé, enfin, on va y venir forcément, à ce retravail. Et que c'est ça qui est beau, au fond. Que ce soit sur les grands ensembles ou que ce soit dans les lotissements pavillonnaires, ce qui est beau, c'est quand il y a une deuxième couche, puis une troisième qui d'intervention humaine. Parce qu'au fond, la ville, on sait bien que c'est un millefeuille, que c'est des couches successives.
Mais là, on force un peu les couches avec cette loi ZAN qui oblige vraiment à densifier les parties qui sont laissées peu en jachère entre les zones commerciales et les pavillons.
C'est une évidence que c'est mieux que d'aller coloniser des champs de betteraves ou de blé dont on a besoin par ailleurs.
Alors, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui changent notre rapport au logement, qui viennent aussi le fragiliser. Le réchauffement climatique, la montée des eaux, les fissures aussi qui menacent nos maisons. Et puis, il y a les séismes. Je voulais vous faire écouter un extrait du 20h de France 2 cette semaine. Ça m'a marqué et j'ai pensé à vous qui étiez pressenti déjà dans cette matinale. Ça se passe à la Grève sur le Mignon en Charente-Maritime après un tremblement de terre qui a eu lieu il y a un an.
C'est ma chambre. C'est ma chambre qui est en train de tomber là.
Il assiste,
imaginer le bulldozer
à sa démolition.
C'est une page du livre de mon histoire qui se tourne. Ce plan psychologique, c'est un peu violent en fait.
À l'intérieur,
je peux ?
On distingue encore les fissures apparues à la suite du tremblement de terre. Des dégâts irréparables.
Alors là, on parle de menaces sismiques, mais par exemple, on voit aussi les maisons se fissurer, voire être condamnées à la destruction par les phénomènes plus ou moins naturels, donc le réchauffement, la montée des eaux aussi. Ça, c'est un traumatisme véritable.
C'est forcément un traumatisme, mais c'est... Alors là, on n'y peut rien, enfin, c'est... Mais c'est toujours... Mais c'est au fond le traumatisme dont on parlait tout à l'heure, quand on disait faire imploser des tours. Moi, j'ai vu, dans le Haut du Lièvre, toujours à Nancy, grande barre, qui est en train d'être déconstruite, et je vois tout d'un coup, deux, trois ouvriers qui sont des jeunes du quartier qu'on a embauchés et qui me disent, vous vous rendez compte monsieur, on est en train de casser l'appartement dans lequel on a vécu, enfant. Je casse l'appartement. Là, je viens d'appeler ma mère et je lui ai montré parce que ça faisait 20 ans qu'on avait déménagé. Ouais. Et je lui ai montré, comme un dernier spectacle, je lui ai montré la cuisine, tout ça. Et maintenant, on va le casser. Mmh. Et vraiment, quand vous voyez arriver les gens qui vont casser un appartement pour le rénover ou pour le... C'est pas la question, hein, mais les gens qui cassent, on a l'impression d'être à Beyrouth, enfin, dans les années 70, quoi. C'est-à-dire, c'est une violence extraordinaire, quand même, quand on détruit.
Alors, ça, vous allez faire un documentaire sur le sujet. Je voulais vous parler quand même de ce mouvement paradoxal, parce que vous dites, on a réinvesti nos logements, on a mis des clôtures, on est un peu dans un espace privé depuis le début des années 2000, mais on les laisse aussi parfois vacants pour les louer sur des plateformes comme Airbnb, comme Abritel. Vous êtes favorable, vous, à ces règles que mettent en place les municipalités pour éviter que les locations de courte durée vident les centres-villes, qu'il y ait cette France des volets fermés, comme disait le Parisien Magazine cette semaine?
Oui, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas envie de voir des centres-villes entiers devenir des accumulations de Airbnb. Mais en même temps, moi, je trouve que permettre aux gens de se promener dans le monde, en France, en Europe, partout, et d'être dans une maison, Ça n'est pas rien quand même. Alors, il se trouve que ce geste généreux et intéressant, hein, qui consiste à dire tu vas pouvoir habiter non pas à l'hôtel, mais tu vas pouvoir habiter dans une maison, acheter des rougets, des dorades chez le poissonnier quand tu es à Naples et les faire cuire et les cuisiner. C'est très intéressant. Ça change la position qu'on a en tant que touriste ou que voyageur. Et en même temps, c'est évidemment tout ça est récupéré par les promoteurs et par les qui tournaient les investisseurs. Moi, je trouve qu'effectivement, il n'est pas acceptable qu'on ait 8, 10, enfin il n'est pas acceptable, c'est dommage qu'on ait parfois que des investisseurs qui aient 10 appartements à louer sur Airbnb. C'est pas un métier Airbnb, ça doit être une plateforme d'échange.
Vous nous parlez des promoteurs, Jean-Louis André, je me fais l'écho de Cécile qui nous a appelé, qu'on n'a malheureusement pas le temps de prendre en ligne, mais qui n'est pas contente. Elle a dit que les promoteurs font parfois des appartements mal pensés, mal fabriqués pour les gens. Bref, tout n'est pas rose aussi dans ce monde du logement, dans notre chez-soi que vous décrivez dans ce livre La maison des Français depuis les 30 Glorieux, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Jean-Louis André.
Merci à vous.
Le journal à suivre.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Bonjour, c'est Flavien Berger.
Les concerts d'Inter au Bataclan.
Je vous donne rendez-vous ce dimanche pour découvrir pour la première fois mon nouvel album Plouf en live.
Et je plonge, et je plonge, et je sors de mon champ.
Flavien Berger en concert, c'est ce soir, de 21h à 22h sur France Inter.
Mercedes-Benz.
Il vous faut quoi pour passer à l'électrique? Une grande autonomie, un SUV compact ou un SUV 7 places? Un loyer attractif? Et pourquoi pas une Mercedes? Jusqu'au 30 juin pendant les Star Days, profitez de l'EQA et de l'EQB 100% électrique avec le pack AMG Line des 399€ par mois.
Location longue durée 37 mois 45 000 km. Premier loyer de 399€, bonus écologique de 2000€ déduit si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Pensez à covoiturer.
Les 8h39.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Magali Rochereau, c'est la fin de la grosse chaleur.
Oui Marion, une fraîcheur toute relative s'installe avec des températures qui restent légèrement supérieures aux normales de saison. Vous vous réveillez avec 17 degrés à Biarritz comme à Clermont-Ferrand, 18 dans la capitale et 20 à Grenoble. Cet après-midi, la chaleur persiste au sud-est, atteignant 30 à 35 degrés, 30 à Marseille, 32 à Bastia et Ajaccio et localement jusqu'à 38 degrés dans le Var. Il fait moins chaud sur le reste du pays, de 21 à 24 degrés sur une large moitié nord, 21 à Dunkerque, 22 à Brive la Gaillarde, 23 au Mans, au-dessus des podiums des 24 heures, et 25 à Niort, comme à Dijon.
Et les orages grondent encore.
Oui, c'est à cause des fortes chaleurs qui rencontrent l'air froid en altitude entre la Bretagne et l'est du pays. Ce matin, ils éclatent en Gironde et au centre pour évoluer cet après-midi vers l'est de vent, de grêle et de foudre battue, particulièrement au-dessus de la région Rhône-Alpes. À l'arrière, le ciel est nuageux à variable, avec de belles éclaircies et quelques ondées. Puis la tramontane se lève dans le sud-ouest et jusqu'aux côtes varoises cet après-midi.
La météo de Magali Rochereau. Il est 8h41.
France Inter, Marion Lourd, le 6-9.
Et avant le journal, évidemment, il y a le carrefour du 6-9 avec Clara Dupont-Monod, Karine Bécart, Christophe Bourseiller. Bonjour les amis.
Bonjour.
À suivre jusqu'à 9h au programme de dimanche est un roman, Clara.
Quoi de mieux que le crime en famille, Marion ?
Mais oui, quoi de mieux ? Pourquoi ce monde vous rend-il fou ce matin, Christophe ?
Alors, ce matin, c'est politique, Marion. Je propose une grande réforme de l'État. Je pense qu'il n'y a pas assez de ministres.
Ah, bah, très bien. Vous allez être entendu, je pense.
Ah, bah, oui.
Et que trouve-t-on à la une des journaux aujourd'hui, Karine ?
On va parler de Chantilly et de Summer Body.
Mais avant tout ça, un peu de musique. Je vous propose d'écouter le groupe Pulp, Spike Island.
Something stopped me, dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged. Shrugged and moved on. It's a guess. No idea. It's a feeling. Not a voice in my head. Just a time.
until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this, shouting and pointing. And by the way, it's my kind of life. By the way, it's time I'll get it right. Oh, no one will ever understand it, and no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel.
Never moins le quart, la revue de presse. Et dans la presse ce matin, Karine, des hommes qui cravachent.
Je voudrais vous parler de leur drôle de vie. Des vies de passionnés, cela ne fait aucun doute. Des vies de contraintes aussi. Des vies de succès pour les plus talentueux. Des vies de discipline, surtout pour tous ceux qui veulent atteindre les sommets. Les jockeys seront en vedette cet après-midi à l'hippodrome de Chantilly pour le prestigieux prix de Diane. Et on n'en parle jamais de ces sportifs de très haut niveau dont on connaît mieux le nom de leur cheval que leur propre nom à eux. Une drôle de vie donc, racontée ce matin dans une double page du journal L'Équipe. Vous découvrirez Christophe Soumillon, un crack en la matière. 3944 victoires à seulement 44 ans, ce qui fait tout de même, laissez-moi compter, une moyenne depuis l'âge de 20 ans de 165 victoires par an, parce que vous découvrirez que les meilleurs jockeys se doivent d'être partout. Et tout le temps, une course le matin en province, une course le soir à Paris, 1700 courses par an, voilà le programme. Vous imaginez, 1700 courses en France et dans le monde entier, ce qui fait presque 5 courses par jour. Oui, là aussi j'ai compté.
Vous avez beaucoup compté.
Une vraie vie de galérien, un univers dévoilé dans l'équipe de ce matin. Sinon, eux aussi, cravache dur, mais depuis quelques mois seulement. Les partenaires sociaux terminent dans 2 jours, mardi, le conclave sur les retraites, qui avait été voulu et mis en place par le Premier ministre François Bayrou. Vous verrez 2 interviews intéressantes ce matin, judicieusement publiées côte à côte dans la Tribune dimanche. D'un côté, le patron du MEDEF, arc-bouté sur l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. C'est vital, explique Patrick Martin. De l'autre, la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, qui ne parle plus de départ à 62 ans, qui ne parle plus non plus de 63 ans. Elle redit juste son opposition farouche à une retraite à 64 ans, trop injuste, rappelle-t-elle. Bref, réussiront-ils à se mettre d'accord? On est loin de les sentir ce matin dans la Tribune sur la même longueur d'onde.
En tout cas, un succès à ce conclave permettrait à François Bayrou de respirer un peu.
Oui, il lui permettrait surtout de revendiquer une méthode qui marche, une manière de faire, certes un peu brouillonne, mais qui réassocie les syndicats au débat public et qui permet de faire émerger des idées, voire des solutions, en tout cas pour aboutir à un succès. Le Premier ministre est prêt manifestement à accorder quelques jours supplémentaires à ce conclave. En attendant, François Bayrou ficelle son fameux budget pour l'année prochaine. Un moment de vérité, y voit très justement Le Parisien aujourd'hui en France. Sera-t-il censuré ? C'est une option qu'il a effectivement en tête et qui lui fait dire dans la tribune dimanche qu'il y a des gens qui sont là pour durer, pas lui. Il jure qu'il est là avant tout pour changer la situation. La formule est magnifique, héroïque même. De l'art de se donner le beau rôle, il n'empêche. Cela signifie que François Bayrou se prépare donc à partir si son budget n'est pas compris et surtout plus terre à terre s'il n'est pas adopté. Elle aussi a tenté de faire de la politique autrement, mais elle y est arrivée. Vous souvenez-vous de Jacinda Ardern, l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande?
Oui.
M, le magazine du Monde, nous rappelle son élection très jeune, à seulement 37 ans, son empathie jamais vue, notamment après l'attentat terroriste à Christchurch en 2019, ou sa gestion du Covid, 2 ans après sa démission surprise, parce qu'elle n'en pouvait plus, elle avait estimé qu'elle avait tout donné. Eh bien, la revoilà avec un livre qui sortira la semaine prochaine. « La politique doit changer », explique Jacinda Ardern dans une interview au magazine Elle. « Elle doit changer si elle veut regagner la confiance de tous ses électeurs qu'elle a perdus. » C'est vrai sans doute pour la Nouvelle-Zélande, ça l'est aussi pour la France. Et M rappelle ce qu'elle a enduré pendant sa campagne en 2017, cet élu d'opposition, par exemple, voyant sa popularité grimper, qui lui avait expliqué qu'il faudrait peut-être qu'elle soit un peu plus que du rouge à lèvres sur un cochon. Jacinda Ardern, à l'époque, n'avait pas laissé passer. Elle avait rétorqué simplement, directement, sincèrement, une pro de la com. Certes, mais pas seulement. Et si c'était ça, finalement, l'avenir de la politique, savoir rester qui on est vraiment.
Vous avez peut-être entendu l'interjection choquée de Clara Dupont-Monod. Qui on est vraiment, Karine? Vous voulez dire même avec nos corps imparfaits?
Certainement pas, Marion. Les corps imparfaits, ça va bien pour l'hiver. Mais avec le retour de l'été, il va falloir recommencer à nous bouger. La dictature du summer body n'est visiblement pas terminée. C'est ce que raconte avec beaucoup d'humour un roman graphique très juste à lire dans le dernier numéro de Topo. Qui revient, vous savez, sur tous les sujets d'actualité, mais en BD, vous découvrirez que les normes redoutables pour les filles l'été sont en train d'être transposées avec la même férocité aux garçons qui se doivent donc d'être musclés, ça c'est la première chose, d'avoir des cheveux, parce que visiblement c'est mieux, et d'avoir la jawline bien marquée.
Ah oui.
Vous savez ce qu'on appelle la jawline ?
Oui.
Sur le ventre.
Pas du
Mais
tout.
Non.
Pas du tout. Les contours de la mâchoire, ça se travaille. Avec quelques injections cosmétiques, s'il le faut, c'est redoutable, c'est drôle et c'est dans tout pot.
Merci Karine Becker. Nous, on ne va pas travailler notre jawline. On pourrait essayer, remarquez.
Je vous laisse faire.
Qu'est-ce que vous recevez dans Question politique tout à l'heure à midi ?
Oui, beaucoup plus sérieusement. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve.
Dimanche est un roman. À 8h51 par Clara Dupont-Monod. Clara, un roman très noir qui propose donc d'être criminel en famille.
Eh ben oui Marion, la famille est le socle de tout, on y revient toujours,
oui.
Même et surtout quand il s'agit de trucider des gens. C'est l'activité préférée de deux frères, Roy et Carl, qui ont 7 cadavres à leur actif et qui sont le centre du génial roman noir de ce dimanche qui s'appelle « Les maîtres du domaine ». Il est signé de Jo Nesbø, alors ça s'écrit Jo Nesbø,
oui.
Mais ça se prononce Jo Nesbø parce qu'il est norvégien. Alors on va pas se mentir, moi je suis très très fan de cet auteur. Dans mon hit parade personnel, je place Jo Nesbø juste devant Jack London.
Pas mal.
Voilà, et juste derrière mon papa, mais ce n'est pas l'objet de cette chronique. Je ne suis pas seule, cela dit, puisque Nesbø a dépassé les 50 millions de ventes dans le monde. Il est traduit dans plus de 50 langues. Ajoutez qu'il est aussi chanteur dans un groupe de rock et on frôle l'homme idéal à égalité avec mon papa, mais ce n'est toujours pas l'objet de cette chronique.
Vous me faites penser à Marilyn Monroe quand vous dites ça, « My heart belongs to daddy ».
Ouais, la blondeur en commun.
C'est ça, tout à fait. Donc ces deux frères, revenons à Jo Nesbø, ces deux frères Roy et Carl, ils tuent pour le plaisir.
Alors non, par nécessité. Ils ont grandi dans un bourg de la Norvège rurale, avec des parents, disons, discutables. Devenus grands, ils ont acheté la moitié du bourg. Mais derrière cette ascension sociale, derrière leur intégration dans le village, derrière leur prestance en affaires, se cachent quelques Maccabées. Alors, c'est plutôt Roy qui se charge des sales besognes. D'ailleurs, c'est lui qui raconte l'histoire. Il est très très doué pour éloigner les soupçons. Je le cite. « Je garde ma tête de Roy, quoi qu'il advienne. Un peu sombre, fermé, réservé. Le genre de personne qui inspire confiance aux Norvégiens. Nous croyons manifestement que la timidité et la maladresse sociale sont corrélées à l'honnêteté. »
Grave erreur.
Oh, oh oui, parce que Roy a l'air sympa avec son blouson en jean. En vérité, il est très offensif. Et il a beau être le cadet, en fait, il se comporte comme un aîné. Et Jonas Bø décrit très subtilement l'équilibre fragile d'une fratrie. D'ailleurs, c'est sans doute pas un hasard s'il a fondé son groupe de rock avec son propre frère. Sauf que, dans ce roman, les forces vont se renverser et l'entente cordiale va virer au duel.
D'ailleurs, on parle souvent de frères ennemis ou de lutte fratricide.
Alors oui, mais ça inclut aussi les sœurs.
Oui.
Souvenons-nous d'Elisabeth, la sœur, la petite sœur même du philosophe Nietzsche. Pendant 40 ans, elle le soigne, elle le lit, elle l'encourage, elle le supporte. Et puis, subitement, elle se retourne contre lui, haïssant ce frère qu'elle adorait. Et bien, entre Roy et Karl, c'est la même bascule shakespearienne. Entre les deux, c'est un carnage, mais un carnage à la norvégienne, c'est-à-dire maîtrisé, froid, précis, qui n'exclut pas un certain savoir-vivre. Chez Jonas Bø, on pousse quelqu'un dans le ravin, ensuite on va présider un conseil d'administration en costume. On discute toujours un peu météo avant de passer commande à un tueur, tueur qui, bien sûr, devra ramasser ses mégots.
Mais ça, c'est important.
Voilà, c'est important. Et tout ça au nom d'une règle plus universelle que norvégienne, que Roy résume ainsi, même quelqu'un qui assassine les personnes qui le gênent a le sentiment d'avoir un honneur à défendre.
Merci Clara Dupont-Monolé, maître du domaine de Jonas Bø, que vous conseillez donc chaleureusement, traduit par Céline Roman-Monnier. C'est paru chez Gallimard dans la série noire. 8h54, Christophe Bourseiller, c'est à vous.
Série noire toujours.
Série noire toujours, sans transition, ce monde qui nous rend fou et de la musique pour commencer.
La solitude. Ça n'existe pas. La solitude,
ça n'existe pas. Donc, c'est ce que chantait Gilbert Bécaud en 1970. Vous avez donc décidé, Christophe, de nous parler de solitude ce matin.
En réalité, Marion, je vais vous parler politique. Ah. Car figurez-vous que le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, qui a régné sur l'Empire du Soleil Levant de 2020 à 2021, enfin il était Premier ministre, avait créé un ministère particulièrement poétique puisqu'il s'agissait du ministère de la solitude.
Oui.
Alors j'ai toujours été surpris par les intitulés de certains ministères, mais celui-ci remportait, je crois, la palme du baroque.
Mais il répondait à un besoin réel, ce ministère. Mais
absolument, Marion. Au Japon, du fait de la pandémie de Covid, à l'époque, en 2020, beaucoup de gens souffraient d'une solitude accrue. Ainsi, le ministre de la solitude avait pour objectif, ça c'est assez curieux, de lutter contre la solitude.
Bah, oui.
Et je précise que la Grande-Bretagne avait déjà créé en 2018 déjà un ministère de la solitude. Voyez,
mais ce n'est pas le seul ministère un peu étrange.
Alors, les politiques ont une imagination sans borne, Marion. Prenez le Japon. Vous y trouvez non seulement un ministre de la solitude, mais encore un ministre des toilettes. Alors, c'est quand même un dossier très spécifique. Voyez, la miction mérite-t-elle un ministère? Alors, on peut sourire, mais il faut savoir que les Japonais sont des gens propres. Ils ont bien raison. Ils accordent une très grande importance à leurs toilettes, dans lesquelles on se nettoie, sachez-le, avec un petit jet d'eau. Alors, il suffit pour s'en convaincre de voir le dernier film de Wim Wenders, Perfect Days, sorti en 2023, qui se déroulait en partie dans des toilettes.
Et est-ce qu'il y a d'autres ministères particuliers, Christophe ?
Je vous emmène en voyage, Marion, je vous propose
Allons-y.
Un court voyage en Inde, puisque le premier ministre populiste Narendra Modi y a créé un ministère du yoga. Alors oui, le gouvernement indien a d'ailleurs célébré pour la première fois le jour du yoga en 2015. Alors, ministre du yoga, ça manque pas de panache, vous voyez,
oui, c'est
pas
vrai. Mal
ça. Je note aussi l'existence dans les Émirats Arabes Unis d'un ministère de la joie. Alors, que doit faire le ministre de la joie? Se doit-il d'être à toute heure du jour un bout en train? Doit-il s'assurer que les habitants du Golfe sont de bonne humeur? Doit-il les faire rire? Alors, évidemment, dans la mesure où les Émirats ne sont pas réputés pour leur sens de la démocratie, il y a quelque chose d'un peu orwellien dans l'existence même de ce ministère de la joie. Cela dit, le Bhoutan, vous voyez, j'ai fait des recherches. Le Bhoutan a créé de son côté une commission nationale de la joie. C'est donc une thématique porteuse.
Ça veut dire que le Bhoutan a aussi un indice du bonheur national brut, Christophe.
Donc, c'est ça. Voilà,
vous nous parlez beaucoup de ministères étrangers, mais est-ce qu'en France, Il existe des ministères aux noms étranges.
Bah, souvenez-vous, Marion, de 1980 à 1983, sous François Mitterrand, ça date un peu, nous avons eu un ministère du temps libre, une jolie appellation. Le ministre du temps libre, André Henry, gérait l'épineuse question des loisirs. Que faire le week-end, voyez ? Alors, sous Valéry Giscard d'Estaing, on a par ailleurs eu, c'est assez curieux, un ministère de la qualité de la vie. Alors, c'était une façon alambiquée de faire allusion à l'écologie. Bah, oui. Et c'est justement ce qui caractérise la France, voyez, user de détours linguistiques complexes pour ne pas nommer directement les choses. Je vous donne un exemple. De 2002 à 2004, sous Jacques Chirac, nous avons eu en France un ministre des programmes immobiliers de la justice. Il se nommait Pierre Bédier. Et vous savez ce que ça recouvre, les programmes immobiliers de la justice ?
Les prisons.
Bravo, Karine. Mais ministre des prisons, c'est vrai, c'est pas très sexy. Alors, quoi qu'il en soit, c'est la conclusion, autant l'avouer, je suis candidat. J'aimerais être ministre du carnaval sans fin, ou encore secrétaire d'État aux randonnées plates, ou mieux encore ministre du sommeil de plomb, de la rêverie prime sautière, ou de la fin des nations. Alors il sonne mon téléphone.
Ah, c'est pas mal. Ministre de la sieste, je propose, Christophe.
Bah évidemment.
C'est des randonnées plates. Ce que vous disiez hier dans votre chronique qu'on peut réécouter sur l'application Radio France. Ce monde me rend fou. Merci Christophe Bourseiller, le journal à suivre.
J'en peux plus de ces bouchons là.
Ah ouais, c'est marrant ça, moi je trouve ça très bien moi ça.
Comment ça tu trouves ça très bien?
Ben, pense un peu aux autres fistons qui aient le temps d'admirer ma nouvelle Aygo Cross avec son toit ouvrant et ses jantes 18 pouces. Eh oui.
Venez découvrir la Toyota Aygo Cross, disponible à partir de 119€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end.
Oh, j'avance, oh là là.
Toyota Aygo Cross Dynamic LLD, 37 mois 30 000 km. Premier loyer 3 990€, réservé aux particuliers dans le réseau participant pour toute commande jusqu'au 30 juin. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
France Inter, partenaire de Enzo, un film de Laurent Cantet, réalisé par Robin Campillo.
Enzo,
16 ans, apprenti maçon à La Ciotat, cherche à échapper au cadre confortable mais étouffant de la villa familiale.
T'es un petit bourge que ça raconte des histoires, c'est tout.
Sur les chantiers, avec Vlad, un collègue ukrainien, Enzo va entrevoir un nouvel horizon.
J'ai pas envie de cette villa. Ces trucs, tout le monde fait la fête comme si tout allait bien.
Enzo, avec Éloi Pohu, Pierre-Francesco Favino et Élodie Bouchèze, au cinéma le 18 juin, un film France Inter.
Bon week-end.